Antoine Robitaille.
Antoine Robitaille.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
Là-haut sur la colline.
Elle a nourri une politique cette semaine sur les souliers de la ministre Duranceau. J'accueille Virginie Dufour. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Députée des Mille-Îles et du Parti libéral du Québec. Ça va bien. Bienvenue d'abord à Là-haut sur la colline. C'est la première fois que je vous accueille. Je suis très content. Dites-moi, est-ce que vous avez regretté vos propos sur les souliers de la ministre? Parce que je rappelle, vous avez dit dans une des questions mardi, dans une de vos questions, un loyer considéré abordable. Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une paire de souliers Louboutin. Et il faut deux paires de souliers pour arriver au prix des loyers des nouveaux logements. Évidemment, vous faisiez référence, comme il a été abondamment fait référence sur Twitter, aux fameux souliers de Marie-France Duranceau, la ministre de l'Habitation.
Écoutez, France-Hélène, je vais corriger.
France-Hélène, pardon, oui.
je vais répéter ce que j'ai dit. J'en ai rien à cirer de ce que porte la ministre. Pour vrai, c'est pas quelque chose qui m'importe. Par contre, je voulais mettre de l'avant le fait qu'il n'y a rien qui se passe pour stimuler la construction de logements. À l'exception des logements sociaux, il n'y a aucune mesure. Le gouvernement ne prend.
Oui, mais je vous arrête. Je vous ai entendu dire « j'ai rien à cirer », mais vous avez quand même fait référence à ça. Donc, vous vouliez quand même faire image.
C'est une image pour montrer à quel point les loyers ont monté et qu'il faut agir. Comme je disais, il n'y a aucun... je pense que les gens peuvent porter vraiment tout ce qu'ils veulent. Je l'avais pas commenté sur les réseaux sociaux ce qu'elle portait. Non, pour moi, c'était vraiment...
Mais est-ce que c'était déplacé de sa part de porter ces souliers-là lors d'une annonce de construction de logements?
Je pense que ça ne nous regarde pas. En toute franchise, ça ne nous regarde pas ce qu'elle porte et ce que tout le monde porte. Je pense que chacun est libre de faire ses choix vestimentaires.
Alors, pourquoi y faire référence? C'est ça que je comprends pas.
C'est plus un élément comique parce que ça m'a frappé que quand les souliers sortaient, la valeur des souliers, que c'était à peu près le prix moyen d'un loyer à Montréal aujourd'hui, c'est juste ça, c'était pour montrer qu'on en était rendu là, attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a rien qui se passe actuellement pour stimuler la construction.
Mais ça a déclenché tout un... On va parler d'habitation un petit peu plus tard, là, mais ça a quand même déclenché tout un débat là, sur le fait qu'on est plus attentif à l'apparence des femmes que des hommes en politique. Avez-vous, vous, comme femme en politique, cette impression-là?
Mais c'est... Comme femme en politique, je porte attention à certains éléments, mais c'est une question personnelle. Ceci dit, moi, je ne porte pas attention à ce que les autres portent. Ça, c'est vraiment.
Oui, mais vous y avez fait référence.
Oui, j'ai fait référence dans une question, mais j'en ai pas parlé, puis j'aurais fait aucun commentaire à la ministre si j'en avais parlé en privé. Là, je le dis, c'était vraiment une image pour montrer qu'il faut agir. Et là, malheureusement, ça a attiré l'attention.
Mais vous, depuis que vous êtes en politique, vous avez fait de la politique municipale avant, avez-vous l'impression qu'on vous scrute davantage dans votre habillement?
Il y a un élément qui se passe, c'est certain, quand on est politicienne, je vais vous dire, moi, quand j'étais au municipal, j'avais des conseils de ville, je gardais un registre de ce que je portais à tous les conseils municipaux pour éviter de répéter et de faire l'erreur parce que c'était un conseil de ville par mois. Donc, ça aurait pu arriver que deux, trois mois en ligne, je porte la même chose. Hein, on s'entend, on n'a pas tant de variété que ça. Mais je faisais cet exercice-là, alors qu'il est vrai qu'un homme n'a pas à faire cet exercice-là. Il peut être en complet noir ou bleu tous les jours, puis on ne se posera jamais la question.
Si oui, moi, je suis toujours habillé pareil, quasiment, à la haut sur la colline, je l'admets.
Mais c'est sûr qu'il y a une pression sur les femmes. Ça, c'est pas nouveau, on le dit. On doit faire un petit peu plus attention.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une pression pour les hommes aussi? Parce que je pense aux cheveux de Justin Trudeau, dont on a beaucoup parlé, aux chaussettes de Justin Trudeau. Pierre Poilievre, on a fait tout un cas de son changement d'apparence. Ses cheveux qui étaient gobinés, il porte des T-shirts maintenant. Et évidemment, je passe Rapidement sur Donald Trump, dont on commente la cravate, le veston, les cheveux, la couleur de la peau. Est-ce qu'il y a vraiment un double standard là-dessus?
Dans le temps, c'était le cas, je crois. Bon, aujourd'hui, écoutez, en toute franchise, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'esthétique, vraiment pas. me coiffer le matin, là, c'est ça me prend à peu près littéralement 30 secondes. Je ne mets pas d'effort là-dedans. Bon, peut-être que je devrais, mais pour moi, l'apparence, ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment nos actions, puis ce qu'on dit aussi. Là, je pense que c'est beaucoup plus ça. Moi, c'est
donc, ça, vous n'avez pas regretté ce commentaire dans votre cette image que vous avez faite dans votre question mardi?
Non, après parce que tout ce que ça amène, ça amène l'attention sur le fait qu'il n'y a rien qui sort de ta. Pour moi, c'était ça. Je voulais mettre l'attention sur le bilan. Et puis, c'est pas juste le bilan de la ministre, c'est le bilan du gouvernement. Et actuellement, il faut que ça bouge. Puis j'ai essayé toutes sortes de façons de repitailler, là. Ça fait un an et demi là, que je suis élue, puis j'ai posé combien de fois des questions à la ministre et que j'ai pas de réponse. Il n'y a rien qui bouge. À un moment donné, on essaye des formules alternatives.
OK, donc il fallait brasser le pommier en donnant un petit coup de soulier sur le pommier.
Je peux vous dire que j'ai talonné la ministre.
Beaucoup. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle s'est mise dans vos souliers?
Dans les miens, je ne sais pas, mais...
Il y aurait une foule de blagues à faire là-dessus.
Oui, exact. Mais l'idée, c'est vraiment, c'est de mettre l'attention sur le fait que là, il ne se passe rien. La ministre, ça fait un an. Il y a un an, elle a promis que son plan d'action était sur le point de sortir, son plan d'action en habitation. Elle a redit ça à l'automne devant des membres du domaine de la construction. Elle l'a redit en janvier. Ah, ça s'en vient. La réalité, c'est qu'on n'a toujours rien. Elle a tenu des consultations, mais dans les faits, je pense qu'elle n'a juste pas su convaincre le ministre des Finances, son collègue, de mettre les sommes que ça aurait pris pour faire bouger la construction.
Moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'on avait remplacé Axelogis par le programme d'habitation abordable du Québec, parce que Axelogis, c'était des enveloppes fermées, puis là, avec l'inflation, ça empêchait la sortie de terre, des édifices. Ouais. Est-ce que c'est ça? Parce que j'essaie de comprendre comme vous je me dis, ça peut quand même pas être juste la faute de Mme Duranceau puis de ses souliers.
Non, parlons du FAC là, qui a été créé. D'abord, c'est aussi des enveloppes fermées. C'est juste qu'elles sont augmentées sporadiquement, mais c'est aussi une des raisons pourquoi ça ne sort pas de terre avec le FAC actuellement. On le voyait cette semaine, là, il y a seulement 9 projets sur
39.
39 exactement, de la première mouture. Axelogis, là, il y avait des améliorations à faire. Certes, il fallait peut-être justement indexer les montants maximaux admissibles de façon importante. Ça aurait été suffisant pour améliorer les choses. On a choisi, à l'époque, l'ancienne ministre, c'est André Laforêt, qui a choisi de créer un nouveau programme pour pouvoir dire que la CAQ a son propre à ça prendre. Et je m'excuse, je l'ai appelé patente à gosse à un moment donné parce que c'est ça. Et on le voit, ils ont dû de l'améliorer. Mais ceci dit, ce que je voudrais dire, c'est que ça concerne seulement les logements sociaux et abordables, les vrais logements les plus abordables. Mais le marché, là où on a besoin de logements, c'est dans l'ensemble du marché. Et là, il n'y a pas d'action. Ce n'est pas le FAC qui va faire en sorte qu'on va construire 70 000 unités par année. Là. Le FAC, c'est peut-être 2 000, 3 000, 4 000 unités par année. Donc, on a besoin de dizaines de milliers d'unités qui soient construites, qui ne se construisent pas présentement. Et pour ça, il faut stimuler le marché. L'Ontario l'a compris, les autres provinces aussi, le fédéral aussi. Ils ont bougé, mais chez nous, au Québec, il n'y a rien qui se passe.
Que feriez-vous si vous étiez au gouvernement?
Vous
avez proposé trois choses, là?
Oui. Bien, ça, c'est des premières propositions, effectivement. Mais la première chose, c'est qu'il faudrait, au moins temporairement, retirer la taxe de vente du Québec, la TVQ des matériaux de construction. L'Ontario et le fédéral l'ont fait sur le locatif. Il faut stimuler la construction. Pas stimuler la demande, il faut stimuler la construction.
Le ministre Girard était assez convaincant, disait ça coûte extrêmement cher, puis est-ce que ça va vraiment stimuler? Est-ce qu'il n'y a pas
ça marche
gens qui vont...
ailleurs.
Oui.
ça marche ailleurs. Puis quand on rencontre les entrepreneurs en construction, là, ce qu'ils nous disent, là, c'est qu'actuellement, à cause des coûts financiers puis de toutes les hausses de coûts qu'il y a eu, le manque de main-d'œuvre a fait monter les coûts, les matériaux de construction ont monté beaucoup. Bref, c'est plus rentable. C'est-à-dire que pour construire et que ce soit rentable, il faudrait sortir sur le marché à des coûts que personne ne peut se payer actuellement. Donc, il faut trouver un moyen de réduire ces coûts-là. Et comme le coût financier est très élevé actuellement, bien, un des leviers, c'est de réduire les taxes. Mmh. Et là, le fédéral l'a fait, ils ont enlevé la TPS sur ça, mais le plus gros pour eux, pour les développeurs, c'est la TVQ. Alors, actuellement, quand on est, par exemple, en Gatineau, en Outaouais, bien, si un développeur s'en va de l'autre côté de la frontière, traverse la rivière, ça coûte 10 % moins cher construire. Et où est-ce qu'il va aller construire? Il va aller construire là-bas. Et les financiers sont à la même place. Ils le voient. Alors, de plus en plus, les capitaux financiers qui financent des gros projets s'en vont vers l'Ontario au lieu d'investir au Québec. Et là, oui, c'est une mesure qui coûte cher. Je suis d'accord. Mais je vais vous poser une question. Combien ça coûte de ne pas construire? Là, on a des gens qui se retrouvent à la rue. Il y a des gens qui sont plus capables. Ils sont saignés à blanc parce qu'ils n'arrivent plus à trouver de logement. Alors, les coûts moyens de loyer, on le voit, là, ils sont en train d'augmenter à une vitesse folle. Quand on achète par exemple, si on sort sur le marché avec un nouveau logement aujourd'hui, ça va coûter, écoutez, avec les coûts financiers et tout ça, là, 2 800 peut-être par mois. On est dans ces eaux-là. Donc, qui peut se payer ça? Il faut trouver le moyen. Fait que, comme il n'y a pas d'offre qui se crée, bien, tout ce qui sort de terre coûte extrêmement cher.
Si vous étiez au gouvernement, comment vous accueilleriez les initiatives du gouvernement Trudeau? À part la TPS, vous en avez parlé, vous êtes d'accord, vous trouvez qu'on devrait le limiter, mais les autres, là, celles qui ont été annoncées dans l'effeuillage budgétaire?
Oui, bien écoutez, c'est sûr qu'il n'est pas question que le fédéral vienne nous imposer un bail canadien. Le Québec a ses propres lois. Ça découle du Code civil du Québec, le bail québécois. Il n'est pas question qu'on vienne toucher à ça.
Parce qu'en point de presse, une fois, vous aviez l'air à vous soucier très peu des compétences du Québec.
Bien, en fait, c'est que le fait que je n'avais pas les détails. Alors, moi, je venais commenter puis me sauter, monter sur mes grands chevaux sans connaître les détails. Il y a peut-être des partis qui sont à l'aise avec ça, mais moi, je veux dire, j'avais besoin de savoir de quoi on parlait. Là, on a un petit peu plus de détails. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des sommes de disponibles. Il faut aller les chercher. Puis on va les traiter au Québec. Il faut le faire. Ce que j'espère, c'est que les ententes vont signer rapidement. Parce que des fois, on a attendu, il y a une entente là, avec le fédéral, un 2,2 milliards, qu'on a attendu 3 ans pour que la CAQ signe une entente. Ça, c'est 3 ans de délai.
Mais est-ce que c'est la faute de la CAQ ou c'est de la faute du fédéral qui essaie d'imposer des conditions en contravention du principe fédératif, de la fédération. On est une fédération. Ils sont en dehors de leur champ de compétences. Je comprends que vous êtes un adversaire de la CAQ, mais pourquoi toujours s'en prendre au gouvernement du Québec, au fond, à l'État qui défend ses prérogatives?
Bien, c'est que si à un moment donné, ça ne bouge pas. C'est au gouvernement. Là. C'est à la CAQ de signer ses ententes.
Mais c'est au fédéral aussi qu'il y a trop d'argent. Est-ce que le fédéral en perçoit trop d'argent? Il devrait s'occuper de ses compétences, l'armée, les frontières et compagnie. Pourquoi s'occuper de l'habitation logement, et des dents, là, je veux dire?
Les dents, je n'entrerai pas là-dedans, mais l'habitation, ce qui est certain, c'est un, c'est pas vrai que c'est 100% provincial. Il y a quand même des habitations qui relèvent, par exemple, les HLM, ça a été construit par le gouvernement fédéral et il y a des ententes. C'est l'entente que je parlais, le 2,2 milliards, c'est une entente concernant les HLM qui ont été construits par le gouvernement fédéral à l'époque. Alors, qui pense que c'est peut-être plausible que dans certains cas, ça concerne leur construction, qu'ils mettent certaines conditions.
Est-ce que le fédéral est légitime d'imposer des conditions?
Oui, écoutez, ça sort de mon domaine. Là. Je voudrais pas aller parler de constitution ou quoi que ce soit. Là. Je ne veux pas aller là du tout.
À la hausse sur la colline, on est pas mal obsédé par ça. Pardon.
mais parfait. Mais moi, mon obsession, c'est l'habitation. J'ai besoin de voir des habitations qui se construisent, des logements. Écoutez, on a des entreprises qui s'en viennent. On attire énormément d'entreprises actuellement pour développer, par exemple, la filière batterie. Mais où va-t-on loger ces travailleurs? On a ce questionnement-là. c'est inquiétant pour les communautés. Tu sais, si on regarde à Gaspé, où il n'y a plus de place, ils sont à zéro de taux d'inoccupation. Zéro. Monsieur Robitaille, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je sais pas
mais si... est-ce que c'est à l'État à construire les logements?
Ah non, c'est pas à l'État de construire, mais c'est à l'État de mettre les conditions favorables pour
alors,
que
outre
les
la TPS, outre la TVQ, qu'est-ce qu'on fait?
Bien, écoutez, il y a des délais de branchement qu'on a vu d'Hydro-Québec qui étaient problématiques dans certains secteurs, notamment, on l'a vu à Gatineau, il y avait des projets qui étaient retardés par ça. Donc, c'est sûr qu'il faut prioriser là, absolument les branchements. Il faut accélérer la chose. Tu sais, quand on est rendu puis des projets, ça prend 3 ans à être connecté. C'est trop long. C'est trop long. On a besoin d'agir vite. L'autre élément, on en a beaucoup parlé, c'est les délais d'émission des permis municipaux. Il y a des inquiétudes que ça prend trop de temps. Bien, nous, ce qu'on a dit, bien, OK, on va donner un fonds pour accélérer ça, mais qui va être dédié aux infrastructures municipales, parce que ça, c'est l'autre grand frein actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui pourraient se faire, mais qui ne se font pas parce que les infrastructures souterraines sont pas, ou les usines de traitement d'eau usée, eau potable, qui sont pas à niveau.
Et vous avez été conseillère municipale?
Oui.
Ben, pourquoi à Laval, par contre, ça a construit en maudit, non? Mais est-ce qu'il y a des lenteurs là aussi?
Oui. Puis on avait fait des études à l'époque. Il y a des secteurs qu'on ne pouvait pas développer. Moi, j'ai accompagné des gens là, pendant 15 ans. Ils ne pouvaient pas construire du tout parce qu'il n'y avait pas les infrastructures. Puis nous, comme ville à l'époque, on n'avait pas les moyens d'amener ces infrastructures-là. Il faut prioriser, les municipalités doivent le faire. J'ai rencontré le maire, c'est de Léry, là, il y a un projet, Léry, c'est une petite municipalité sur la rive sud, un projet de 2000 unités qui est bloqué parce que l'usine d'eau usée est à pleine capacité, elle doit être mise aux normes. Mais le coût que ça représente pour eux, c'est trop important. Oui, le gouvernement a amélioré certains programmes, mais là, on est vraiment dans des stratosphère de prix là, dans ce genre d'ouvrage-là. Donc, nous, ce qu'on suggère, ce qu'on voulait proposer, c'était un fonds qui est dédié pour les municipalités, mais en fonction des délais d'émission des permis de construction.
Merci beaucoup, Virginie Dufour, pour cette première à La Haut sur la colline. J'étais très content de vous rencontrer. Au plaisir. Merci.
En espérant que ce ne soit pas la dernière.
Ben oui, certain. Donc, Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, on n'a pas eu le temps de parler d'environnement, mais elle est critique en matière d'environnement, en plus de l'habitation. Vous reviendrez, Virginie. Au revoir.
Ça me fait plaisir.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Et c'est l'heure de la chronique constitutionnelle. Et cette semaine, c'est Guillaume Rousseau qui est là. Bonjour, Guillaume Rousseau.
Bonjour.
Professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et donc accessoirement notre chroniqueur constitutionnel cette semaine. Guillaume, je t'ai passé un jugement. Je t'ai envoyé un jugement pour analyse parce que c'est un jugement assez particulier. Il y a une personne qui s'identifie comme ni homme ni femme qui est parvenue en Ontario à se faire payer une vaginoplastie qui est assez spéciale, là, expérimentale, au cours de laquelle il peut conserver son pénis. Donc, tu as lu ça avec intérêt parce que y a des questions de droit qui sont soulevées. Évidemment, ça s'est passé devant une cour en Ontario.
Oui, effectivement. Donc, plus précisément, c'est une personne non-binaire, mais à dominante féminine. Donc là, on connaissait les hommes et les femmes. Ensuite, on a connu les non-binaires. Mais là, semble-t-il que dans les non-binaires, hein, donc ce serait un spectre. Le genre serait un spectre. Et là, il y aurait des non-binaires un peu plus femmes, un peu plus hommes. Ici, ce serait une personne non-binaire un peu plus femme, d'où le fait que cette personne-là souhaite une vaginoplastie, donc souhaite une opération chirurgicale pour avoir un vagin, mais en même temps souhaite garder son pénis. Ouais. Et là, ce qui est particulier, c'est que normalement, lorsqu'il y a une vaginoplastie, donc l'opération est faite et en même temps qu'on enlève le pénis et en quelque part, on prend la peau du pénis pour en faire un vagin. Comprends bien. Évidemment, je suis pas chirurgien, là, mais c'est assez bien expliqué dans le jugement, donc je pense pas faire d'erreur. Et donc, normalement, ça se fait comme ça et ça, c'est couvert par l'équivalent de la RAMQ en Ontario, donc l'assurance maladie. Mais là, ici, c'est normalement ce qui est plus commun, c'est cette opération-là, donc la vaginoplastie, donc créer le vagin avec la peau de pénis, en enlevant le pénis. Mais là, puisque la personne veut garder les deux organes génitaux, ça crée une question de droit qui s'était pas posée avant en droit ontarien.
Exactement. Donc, je t'ai lancé le défi d'analyser ça. Sur quoi cette personne-là, qui est nommée KS dans le jugement, elle se base sur quel élément du droit elle se base pour dire que c'est l'État qui doit lui payer cette chirurgie?
Donc, c'est vraiment la loi sur l'assurance maladie en Ontario, le Health Insurance Act. Donc, c'est voilà, c'est aussi bête que ça. Ben, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, c'est une annexe avec un schedules of benefits là, qu'on pourrait traduire par un tableau des prestations couvertes par l'assurance maladie, là, si on essaie une traduction là, pas trop littérale. Donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de prendre la loi, puis la liste, puis les annexes, puis les règlements, puis là, dire, bon, ben, dans ce qui est couvert par l'assurance maladie, est-ce que une vaginoplastie sans pénectomie,
ouais,
donc le fait d'ajouter un vagin sans enlever le pénis, est-ce que ça c'est couvert?
Okay.
Et là, il y a eu des différentes procédures, différentes décisions, mais à un moment donné, il y a une commission qui a refusé à KS, à la personne non binaire, de couvrir par les l'assurance maladie la vaginoplastie sans pénectomie. Parce que généralement c'est vaginoplastie avec pénectomie et la règle dans le fond la règle c'est que c'est couvert la vaginoplastie, mais là il y a une commission qui dit ben un instant, ce qui est couvert c'est la vaginoplastie normale, donc celle avec pénectomie. Mais là semble-t-il que c'est elle, là, c'est précisant de votre page, faut plutôt dire elle, semble-t-il.
Faut dire elle.
Effectivement. Et là, donc, la personne non binaire, elle souhaite avoir la vaginoplastie sans pénectomie. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un peu une question de charte des droits. Il y a un argument de charte des droits.
C'est ça. J'étais curieux de savoir où la charte des droits allait intervenir à un moment donné, parce que c'est toujours ça. C'est souvent ça, en tout cas au Canada, dans ces questions-là.
Effectivement, mais à la base, c'est essentiellement un jugement d'interprétation des lois. Donc, okay. Si on a des étudiants en droit qui nous écoutent, là, puis vous êtes en train de faire votre cours d'interprétation des lois, allez lire ça parce que c'est vraiment un beau cas. Donc, en fait, c'est vraiment d'analyser une phrase. Donc, c'est une virgule à la fin qui fait la différence. Hein.
Donc, ah oui?
Et c'est même pas une façon de parler. Là. C'est vraiment la présence d'une virgule qui change tout. J'y arriverai tantôt. Mais c'est vraiment un cas, comme on enseigne dans les facs de droit, d'analyse de la loi. Donc, il faut juste lire la loi. Donc, il s'agit pas de se perdre dans la jurisprudence, quoi qu'évidemment, il y en a un peu, avec des grands principes, un peu limites philosophiques. Il y en a un petit peu, mais essentiellement, à la base, il s'agit de lire la loi.
Okay.
Donc, il y a une série d'opérations chirurgicales qui sont couvertes par l'assurance maladie, puis il y en a d'autres qui sont pas couvertes, comme dans n'importe quel régime d'assurance maladie.
Comme par exemple, une femme peut se refaire faire les seins après un accident, après...
Mais pas à des fins purement esthétiques, par exemple.
Et ça, exactement.
En général. Voilà,
et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce cas de figure-là, puis que le problème va se poser, pas le problème, mais en tout cas la question va se poser ici au Québec à un moment donné.
Oui, effectivement, c'est pour ça que c'est bon de regarder ce qui se fait en Ontario. Donc l'idée, c'est d'interpréter l'annexe à la loi, le document qui énumère les opérations chirurgicales qui sont couvertes. Donc c'est une question d'interprétation des lois. Puis là, la Cour nous rappelle comment on fait pour interpréter la loi au Canada. Essentiellement, trois étapes. D'abord, on regarde le sens des mots.
Okay.
Le sens ordinaire des mots, on lit la loi, puis parfois c'est extrêmement clair. Donc si c'est extrêmement clair, on peut s'arrêter là, on applique, le juge a compris ce que ça voulait dire. Bon, il y a d'autres théories d'interprétation qui vont vous dire c'est jamais complètement clair, faut toujours tenir compte du contexte, mais bon, en théorie, et c'est comme ça que c'est présenté dans le jugement, on peut s'en tenir aux mots ordinaires, au sens ordinaire des mots. Deuxième étape, on regarde le contexte de la loi, l'intention du législateur, l'objectif, le contexte un petit peu plus large au niveau des normes. Et troisième étape, au besoin, si c'est pas clair, on peut aller voir les valeurs de la Charte canadienne. Donc, si, après avoir lu le texte, dans son contexte, à la lumière de l'intention du législateur, il y a encore deux interprétations possibles, mais on va opter pour l'interprétation qui va davantage dans le sens des valeurs de la Charte canadienne. Donc, il s'agit pas de dire que la loi est contraire ou pas à la Constitution, à la Charte, donc inconstitutionnelle, c'est pas ça, c'est la Charte comme outil d'interprétation d'une loi ordinaire dont la constitutionnalité n'est pas contesté. Fait que c'est un volet de l'activité autour des chartes, de la Charte canadienne en particulier, qu'on connaît moins, puis qui est intéressant. Donc, c'est vraiment les trois étapes qui sont appliquées ici.
Donc, les juges ont réussi à ajouter cette vaginoplastie-là sans pénectomie à la liste, dans le fond.
Ben, en fait, la façon qu'ils présentent leur raisonnement, c'est qu'ils ne font qu'appliquer la loi. Puis honnêtement, c'est plutôt convaincant. Donc je suis plutôt convaincu. Puis comme je dis, moi, j'ai pas d'opinion, je connais pas assez le dossier des transgenres et tout pour avoir une opinion morale, philosophique sur la question, mais strictement en termes de droit, de technique d'interprétation des lois, c'est plutôt bien argumenté. Dans le fond, l'idée, c'est que, et c'est là pour ça que je vous dis qu'il y a une virgule, donc la première étape, c'est de regarder les mots, puis là, c'est écrit parmi ce qui est couvert par l'assurance maladie en Ontario, c'est donc vaginoplastie, virgule, pénectomie. Donc, c'est comme si les deux sont couverts, mais il y a une virgule entre les deux. Donc, c'est comme un ou l'autre. C'est pas nécessairement que si vous avez une vaginoplastie, ça veut dire que nécessairement, ça vous prend aussi une pénectomie, puisqu'il y a une virgule entre les deux. Okay. Donc, déjà, en partant, il y a littéralement une virgule qui fait la différence. Donc, en partant, juste le sens des mots, vaginoplastie. Vaginoplastie, il y a trois façons de la faire, là, ce qu'on comprend, donc dont celle qui consiste à enlever le pénis, le transformer en vagin avec la peau, mais il y a d'autres façons. Là, il n'y a pas trop de détails, là, mais on n'est pas obligé, autrement dit, de faire ça. Il y a d'autres façons de procéder à une vaginoplastie. Donc, puisque la loi dit juste vaginoplastie, ben c'est pas nécessairement une vaginoplastie forcément avec pénectomie. Ah, donc ça, c'est l'argument de Tex.
OK. Et c'est comme ça qu'ils en viennent à forcer, au fond, l'État à payer pour cette opération particulière.
Ouais, la deuxième étape du test, c'est que là, ils vont voir que dans la loi et dans le droit ontarien, il y a un renvoi, il y a une volonté du législateur d'incorporer les règles d'une association internationale en matière de soins pour les personnes transgenres. Et une des recommandations de ces grands standards internationaux, c'est vraiment d'avoir des traitements individualisés. Donc, c'est pas genre tous les transgenres, devraient avoir tel soin, tel autre soin. C'est de dire vraiment c'est individualisé. Puis là, donc, dans le cas de cette personne-là, elle est non-binaire, mais dominante féminine. Ben là, donc pas complètement féminine. Bon, le contexte particulier de la personne fait en sorte qu'il faut effectivement, semble-t-il, lui créer un vagin, mais sans lui retirer le pénis. Donc parce que c'est précis, cette personne-là, c'est ce qui répond à ses besoins très très particuliers. Et on comprend donc aussi par ailleurs dans ces standards internationaux-là, on n'écarte pas la possibilité qu'il puisse y avoir une telle chose qu'une vaginoplastie sans pénectomie. Alors que même si habituellement ça va ensemble. Et là, troisième étape.
D'hermaphrodite, mais c'est qui existe dans la nature, c'est des cas extrêmement rares, mais c'est ça.
Ouais. Ouais, et là c'est créé par la. C'est au Texas, c'est tout ça, c'est l'autre question aussi, parce que ça se donne même pas en Ontario tellement que c'est particulier comme opération.
Il fallait aller à l'étranger en plus.
Il fallait aller au Texas pour là ensuite dans est-ce que l'Ontario a prévu rembourser ça, donc il y a cette règle, il y a cette question là qui se pose aussi. Mais déjà avec le texte, on a pas mal tranché. Ensuite le contexte confirme, puis finalement tout ça est confirmé à la troisième étape en disant que ben en plus en faisant cette interprétation là qui permet le remboursement de la vaginoplastie sans pénectomie, ben ça respecte le droit à la sécurité de la personne. Ah. Et là on va chercher dans le droit à la liberté, l'article 7 de la Charte canadienne, donc liberté, vie, sécurité. Dans l'affaire Carter, je pense qu'on avait dit que bon pour les prostituées et tout là. Donc là on fait un lien avec le fait qu'on veut sa sécurité, c'est pour sa santé. Puis ensuite, évidemment, l'article 15, le droit à l'égalité. Okay. On veut pas discriminer une personne transgenre. Donc, les trois étapes mènent à la même conclusion et le tribunal juge que ça doit être remboursé.
J'étais sûr qu'il y avait de la charte là-dedans. Mais c'est parfait. Ouais. Deuxième sujet, Guillaume. En étude de crédit, le ministre Jolin Barrette, le ministre de la Justice, a dit que c'était au fond, s'il y avait des délais en justice, c'était en grande partie la faute des juges qui siègent moins longtemps, du moins à la Cour du Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben, on se souvient de des tensions qu'il y a eu entre le ministre de la Justice et l'ancienne juge en chef de la Cour du Québec, parce qu'elle a quitté depuis, donc Mme Rondeau.
Presque une guerre de tranchées.
Ouais, c'est ça. Puis il y avait différents volets. Là. Il y avait un volet linguistique lié à la loi 96 et tout, mais il y avait un volet qui était que la juge avait décidé que les juges allaient siéger moins souvent. Donc, un juge, évidemment, c'est à temps plein la plupart du temps, mais parmi son temps plein, il y a un certain nombre d'heures sur le banc, comme on dit, donc à entendre des parties, entendre des procès. Et là, la juge souhaitait, bon, on sent que ça vient sans doute de la base, même si ça faisait pas l'unanimité, on peut penser que c'est plusieurs juges qui le souhaitaient moins travailler de temps sur le banc pour avoir plus de temps pour rédiger les décisions. Puis là, c'est notamment aussi lié aux chartes, c'est rendu tellement compliqué le droit, puis il y a tellement de jurisprudence à aller chercher, alors que avant les chartes, c'était un petit peu moins, on plaidait pas le partage des compétences à tous les jours, puis on était plus dans l'application de la loi. Donc, si vous voulez mon opinion, là, à parenthèse, je pense que c'est beaucoup lié aux chartes. Mais peu importe, donc la juge souhaite
Les jugements sont de plus en plus longs aussi.
Exactement. Donc, il y a vraiment souvent, même le moindre petit procès qui peut sembler sur une question de loin des chartes, on peut plaider un argument de charte, puis là, ben ça complexifie la chose et le juge a besoin de temps pour rédiger son jugement, pour lire la jurisprudence. Donc, elle fait cette demande-là. Le ministre, à l'époque, s'y était plutôt opposé. Finalement, bon, il y avait eu une médiation, puis il avait trouvé une espèce de terrain d'entente, mais manifestement, c'était probablement ça le plan B du ministre et il souhaitait pas parce que tout ça évidemment à l'époque il y avait déjà Jordan, il y avait déjà des délais très très serrés qui étaient difficiles à respecter. Donc il y a eu une espèce de compromis qui a été trouvé. Donc les juges ont coupé leur temps sur le banc mais moins que ce qu'aurait souhaité à l'origine la juge Rondeau. Mm-hmm. Et là bon on se retrouve plusieurs mois plus tard avec des délais très longs avec des arrêts de procédure et là donc la question est soulevée en étude de crédit et là le ministre donc se fait dire par l'opposition je pense que c'était Pascal Paradis que là ça prend du temps, il y a des délais liés à Jordan, il y a des arrêts de procédure, il y a pour différents motifs des fois on peut pas aller de l'avant et là effectivement le ministre répond que c'est notamment le fait des juges. Donc le fait que les juges siègent moins souvent donc sont plus longtemps dans leur bureau à rédiger des décisions et moins longtemps vraiment sur le banc, ça a un effet sur Jordan. Donc là sur des procès qui parviennent difficilement à qui permet difficilement à procéder dans le temps requis. Mmh. Alors, c'est pas rien. En même temps, le ministre, c'est sûr qu'il s'est entendu, donc il l'avait accepté en quelque part, mais on comprend que c'est un plan B, puis que les juges, évidemment, invoquaient l'indépendance de la magistrature, donc c'était pas nécessairement évident pour le ministre de complètement refuser à l'époque. Donc c'est ça. Donc, on est sur... vraiment, c'est les suites de Jordan, et c'est ressorti pendant l'étude des crédits. Puis là, évidemment, l'opposition dit que le ministre prend pas ses responsabilités, mais en même temps, je pense qu'on peut pas reprocher au ministre Jeanlin Barrette de ne pas avoir minimalement tenu son bout. Est-ce qu'il l'a tenu assez? Là, il pourrait avoir débat, mais en tout cas, c'est un des ministres qu'on sait quand même qui est capable de résister à certaines demandes de la magistrature plus que certains de ses prédécesseurs. Mm-hmm. Est-ce que d'autres feraient mieux? Ça, c'est aux électeurs à en juger, là, mais mm-hmm. je pense que c'est
et on sait qu'à la Cour du Québec, c'est la guerre de tranchées là, entre les juges, parce qu'il y a même une juge qui poursuit le nouveau juge en chef pour une question d'harcèlement. En arrière-fond, là, on sait que c'est cette question-là du rapport avec le ministre qui est donc en cause.
Exactement. Fait que c'est pour ça que ça a attiré l'attention pendant l'étude des crédits. Mais en même temps, c'est compliqué parce qu'on voit que c'est pas la même chose dans tous les districts judiciaires. Donc, mm-hmm. Par exemple, chez nous, district de Saint-François à Sherbrooke, il y en a beaucoup plus proportionnellement d'arrêts de procédure et de non-respect des délais de Jordan. Donc, alors que la norme un peu qui avait été proposée par la juge Rondeau en termes de proportion de temps sur le banc pour les juges, c'est un règlement qui valait pour tout le Québec. Donc, il faudrait pousser un petit peu la réflexion là, pour ouais. savoir qu'est-ce qui explique les disparités entre districts. On trouverait peut-être d'autres causes. Alors, je pense que c'est un débat qui se poursuit.
Merci infiniment, notre chroniqueur constitutionnel de la semaine, à qui j'ai lancé un défi qui n'était pas évident d'analyser ce jugement complexe de l'Ontario. Merci pour tout. Donc, Guillaume Rousseau, qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke et accessoirement notre chroniqueur constitutionnel de la semaine.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Et les vadrouilleurs sont avec nous. Les vadrouilleurs, c'est comme ça que j'appelais mes amis reporters à l'Assemblée nationale, correspondants. Nicolas Lachance, Patrick Bellerose, Marc-André Gagnon, comment allez-vous?
Très bien. Bonjour Antoine, ça va très bien, merci.
Grosse semaine politique encore avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui a joué les divas au crédit parce que c'était les crédits du premier ministre. Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de cette sortie remarquée du chef du Parti québécois hier? Il restait quand même 40 secondes, puis ça a fait jaser aujourd'hui jeudi là, à l'Assemblée nationale.
Oui, ben, tu sais, notamment les partis d'opposition qui ont pris la peine de rappeler que les élus péquistes rappellent souvent qu'ils ont peu de temps pendant les procédures parlementaires, donc en commission parlementaire de façon générale. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, bénéficiait d'une douzaine de minutes, si je me souviens bien.
D'ailleurs, il les a rappelé... pas toutes, Il ne les a pas toutes utilisées.
Non, il a quitté avant la fin, puisque, bon, il était choqué de voir que François Legault ne répondait pas précisément aux questions qu'il lui posait, mais plutôt attaquait en retour Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais je pense que tout ça, ça traduit, Antoine, une certaine exaspération de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, que l'on décode aussi sur les réseaux sociaux, dans les messages qu'il publie, puisque François Legault souvent ne répond pas aux questions qui lui sont posées. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour les journalistes. Et on comprend que le chef du Parti québécois est tanné de ça. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'il a exprimé en quittant de façon précipitée.
Patrick, là-dessus?
Oui, mais écoute, il faut dire que François Legault, c'est vrai, rapportait des contradictions de Paul Saint-Plamondon. Plutôt que de répondre aux questions, il disait, écoutez, dans le passé, en 2016, vous étiez contre la souveraineté, maintenant vous présentez ça comme le remède à tous les problèmes. C'est vrai, M. Legault ne répondait pas aux questions. En même temps, les questions de Paul Saint-Plamondon ne portaient pas sur la gestion de l'État. Il disait, si je fais la souveraineté, allez-vous me rejoindre dans le camp du oui? Je ne sais pas à quelle réponse il s'attendait. François Legault ne va pas dire, oui, bien sûr, je vais être avec toi à tes côtés. Il ne va pas dire non plus, je vais me battre pour garder le Québec dans la Fédération. Donc, les questions portait pas non plus sur la reddition de comptes que sont l'étude des crédits.
Sur ça portait pas sur les crédits, comme souvent, c'est ça qui est exaspérant.
Comme souvent,
mais
là,
exercice. Je disais
de façon spectaculaire, parce qu'en général, oui, tu sais, ils en profitent pour poser des questions sur différents sujets connexes, mais cette fois-ci, je disais, sur la souveraineté, François Legault avait nulle part où aller, donc il s'est réfugié derrière l'attaque des contradictions. Sur le fait que Paul Saint-Plamondon n'est pas resté à les 40 dernières secondes. Bon, en soi, là, 40 secondes sur 12 minutes, c'est pas grand-chose. Je te dirais, par contre, que quand tu aspires à gouverner, ben tu devrais démontrer plus de respect pour tous les hauts fonctionnaires qui sont déplacés. Tout le travail qui est fait de reddition de comptes, tu devrais assister au début et à la fin, à mon avis, des crédits, ou minimalement, tu sais, à la grande majorité. Là, quand tu t'adresses aux hauts fonctionnaires puis tu leur dis, écoutez, moi, je suis ici pour 11 minutes 30, puis après, je m'en vais, ça n'a pas nécessairement le bon message pour des gens que tu pourrais avoir à côtoyer bientôt d'ici quelques années.
Un très bon point. L'étude de crédit, là, ça fait tellement travailler les fonctionnaires. Puis souvent, il n'y a pas de questions liées au travail qu'ils ont déployé, hein, Marc-André, peut-être, passer la parole à Nicolas. Là,
oui, très rapidement, ce que j'allais dire, c'est que Pat a raison, c'est un privilège. Tu es chef d'un parti d'opposition, tu es dans un exercice de reddition de comptes et tu peux questionner le premier ministre, tu dois prendre tout le temps qui t'est consacré, là.
Nicolas?
Ben, à la défense de Paul Saint-Plamondon, puis faut quand même admettre qu'on regarde beaucoup de crédits, et c'est vrai qu'on voit les quatre députés péquistes rentrer et sortir des commissions. Il y en a beaucoup, ils veulent en couvrir le plus possible. C'est la réplique que Paul Saint-Pierre Plamondon donne aujourd'hui. Il dit, ben, regardez-moi, il y avait d'autres commissions, je rencontrais des élus français également dans les secondes qui suivaient, donc j'avais posé mes questions, j'avais pas de réponse, il restait du temps peut-être, mais j'avais d'autres obligations, donc il a décidé de sortir. Mm-hmm. Ça reste que on sent que Paul Saint-Pierre Plamondon se froisse facilement. On a des exemples de plus en plus, on l'a vécu comme journaliste, on le vit lorsqu'il n'est pas d'accord avec nos articles, les reprend, ensuite va sur Twitter, essaie de rectifier tout le temps en jouant sur la ligne. Donc, c'est vrai que en ce moment...
Il a le droit aussi, parce que les médias ne sont pas à l'abri de toute critique.
Exactement, tout à fait. C'est vrai également qu'en ce moment, le premier ministre s'amuse énormément en chambre à ne pas répondre aux questions des chefs d'opposition. Malin plaisir, il est un professionnel de la joute politique, se sert de chaque seconde ou chaque petite craque à l'Assemblée nationale pour essayer de frapper sur les faiblesses de ses adversaires. Et clairement, hier, le premier ministre s'est gâté en bon québécois.
Écoute, je vais
en même temps, moi, je trouve moins efficace que Jean Charest ou que Robert Bourassa dans ce jeu. Oui, Patrick, pardon.
Oui, mais en fait, je pense qu'ils en profitent aussi pour dépeindre l'adversaire. Le PQ est en avance dans les sondages, donc c'est l'adversaire à attaquer. Moi, ça me rappelle un peu l'époque où Jean Charest parlait de Mario Dumont comme une girouette. T'sais, on le dépeint, puis si je te parle de Mario Dumont, c'est quoi le terme qu'on utilisait? C'est girouette, c'est resté même des années après. Et là, on va dire, ben écoutez, c'est Bernard Drainville qui est sorti aujourd'hui en disant, ben moi, je pense qu'il est un petit peu saupoulé. Ce genre de choses-là, là, c'est pas...
Ça colle, c'est une expression qui était sortie de la bouche de certains chroniqueurs, donc clairement, on dirait qu'on veut accoler cette étiquette-là. C'est comme un peu c'est pas méchant, mais on sait ce que ça veut dire.
Marc-André, un mot là-dessus, parce qu'il faut passer à un autre sujet, là, oui.
Pour résumer autrement, l'évidence, c'est que le danger qui guette Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que les sondages qui lui sont favorables en ce moment lui montent à la tête. Et en quittant de façon précipitée, c'est un peu l'impression que ça donne, et c'est un peu ce que François Legault espère de donner comme impression de la part du chef péquiste. Donc, il doit faire attention, autant face à François Legault que face aux journalistes. Là-dessus, Nicolas a raison.
Parlons santé maintenant, guichet d'accès à la première ligne. Moi, je l'ai utilisé cette semaine et ça a fonctionné. J'ai eu un rendez-vous, j'ai même texté André Fortin qui venait de dire en étude de crédit qu'on ne réussissait pas à avoir de rendez-vous. Puis l'équipe libérale m'a répondu « Achète-toi un 649 ». J'ai trouvé la blague bien bonne.
Mais est-ce que c'était un rendez-vous pour dans l'immédiat, pour une petite urgence?
C'est vrai que c'était pas une urgence. Je suis en bonne santé. En tout cas, je suis pas malade pour l'instant. Mais c'était vraiment pour la prévention. Ce que je faisais avec mon médecin de famille, qui a pris malheureusement sa retraite cet été. Donc, au moins quand même, j'ai un rendez-vous. Je vais pouvoir avoir des tests et on va pouvoir faire ce que je faisais, c'est-à-dire de la prévention. Il n'y a rien de mieux. Hein. Tout le monde nous le dit. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, le gap, ça fonctionne, mais ça risque de disparaître. Pour toi, Patrick... D'ailleurs, le gap, ça avait été plus compliqué, mais est-ce que ça va disparaître, le gap, à cause de la chicane entre Christian Dubé et les omnipraticiens?
Juste commencer en disant que ça fonctionne pas pour tout le monde. Hein. Moi, tu te souviens, ça m'a pris 2 heures à avoir un rendez-vous. J'avais quand même eu un rendez-vous, mais récemment, un membre de ma famille a voulu avoir un rendez-vous plus urgent, un peu là, pour un streptocoque. On a appelé, on était sur la RVSQ aussi, le Rendez-vous Santé Québec. Zéro rendez-vous. On a eu un sans rendez-vous 5 jours plus tard. Et encore là, il fallait attendre une fois rendu sur place. Donc, ça fonctionne pas pour tout le monde.
Non.
Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un des grands succès du bilan de Christian Dubé. Christian Dubé a mis en place beaucoup de choses qui sont pas encore arrivées à terme, là, comme l'Agence Santé Québec. Le gap, ça fonctionnait, pas toujours, mais ça fonctionnait. Puis, c'est une façon genre de pallier l'absence de médecins, le manque de médecins. Fait que c'est un peu particulier parce que Christian Dubé lui-même s'en vantait, disait, ben regardez, on a réussi ça. Les médecins de famille aussi avec la FMOQ nous disaient, regardez, on a collaboré, ça a fonctionné, ça fonctionne. Et là, ce matin, on apprend que Christian Dubé a décidé de mettre fin à l'entente. En fait, l'entente est arrivée à échéance le 31 mai et Christian Dubé a décidé de ne pas renouveler l'entente en disant, ben pour l'instant, je ne sais pas si ça fonctionne réellement dans le sens où on a mis 900 000 on a inscrit 900 000 patients, mais je ne sais pas si ces patients-là réussissent à avoir un médecin. C'est quand même particulier comme aveu parce que depuis 2 ans, on a mis 200 millions de dollars pour cette entente-là. Là, ce que Québec va dire, c'est ben, c'est de l'argent qui était déjà prévu dans l'entente signée par les libéraux à l'époque. On a réussi à le dépenser comme ça en s'assurant que les médecins prennent en charge des patients. C'est quand même beaucoup d'argent sans savoir.
Mais c'est une position de négociation là de Christian Dubé, Nicolas?
Ce que je trouve étrange, pour le particulier qui se dit bon, on essaie quelque chose, on nous promet un accès à un groupe de médecine familiale, ça fonctionne so-so, mais c'est déjà mieux que peut-être que ce que c'était. Le citoyen qui paie des impôts, là, qui voit que la majorité du budget est consacré à la santé, là, il veut pas d'une chicane syndicale. Il veut qu'on... Puis le médecin qui a été formé aux frais des Québécois, qui est payé par les fonds publics, il fait son travail. Donc, la menace syndicale puis la menace patronale en ce moment, elle est particulière parce que en réalité, ce service-là...
On oublie le patient.
On oublie le patient et c'est un service essentiel et c'est un service qui est dû. Donc, ce que je comprends pas, c'est... pourquoi ils ont besoin d'une prime pour faire leur travail? C'est travail qui se doit d'être...
Parce qu'ils recevaient 120 $ hein, Patrick?
120 $ par année, par patient.
Patient prise en charge, il faut le dire.
Donc, c'est la question que je me pose. C'est une question que je me pose. C'est pourquoi ça prend une prime pour faire le travail auquel on est attitré et payé? Vous êtes médecin de famille. C'est votre travail de prendre en charge des patients.
La FMOQ dit la force, c'est parce que il y a des médecins qui viennent faire juste ça, puis il y a des infirmières qu'on embauche pour gérer, justement, pour prendre en charge des patients chapeautés par d'autres médecins. C'est leur réponse.
Je l'ai déjà dit par le passé, ce qui est important, c'est d'être pris en charge, qu'on soit pris en charge par un médecin ou un groupe de médecine familiale. Tant qu'on est pris en charge quelque part, ben ça permet d'éviter que des problèmes découverts trop tard deviennent très graves et coûtent éventuellement très cher, non seulement à la santé de la personne, mais éventuellement aussi aux contribuables. Tu sais, pendant longtemps, on a fait la promesse, moi je trouve folle, aux Québécois que ce serait un médecin pour chaque citoyen. On n'y arrivera jamais. On le voit, ça fait des années. Moi, je pense que c'est un objectif qui est irréaliste. Donc, tant qu'on soit pris en charge par un groupe de médecine familiale, c'est déjà un début. Donc, ils doivent s'organiser pour que ça fonctionne. Ça, c'est évident. Puis, les partis d'opposition, on l'a entendu ce matin, ils craignent que l'accès soit mis à l'avant, là, comme les médecins eux-mêmes, finalement.
Oui, Nicolas.
On a donné beaucoup de pouvoir aux médecins. On leur permet de gérer ces cliniques-là. Maintenant, c'est à eux de rendre tout ça rentable aussi. On leur permet une large liberté. On leur donne les moyens d'accomplir le service public. Maintenant, il faudrait aussi qu'ils donnent un peu l'exemple. Non,
Puis tu sais, leur salaire a augmenté dans les dernières années. Puis ça a été démontré que la productivité a vraiment pas augmenté en proportionnellement.
Faut pas généraliser, mais c'est vrai que, oui. C'est...
Patrick, en terminant sur ce sujet-là, parce qu'il faut parler d'Éric Lefebvre, oui.
Comme depuis longtemps, moi, je crois que si c'était des salaires, justement, plutôt que des primes à l'acte ou des paiements à l'acte, ce serait plus simple à gérer. Puis je pense que le côté administratif, on économiserait énormément.
C'est ça. On n'aurait
pas à renégocier aussi.
On saurait finalement qui travaille le vendredi, qui ne travaille pas le vendredi.
On a un système à l'européenne dans un contexte nord-américain, puis ouais, ça rend les choses assez difficiles. Parlons d'Éric Lefebvre, Marc-André. Qu'est-ce qu'il va faire comme indépendant, l'ancien whip là, de la CAQ?
Ben, j'ai hâte de l'entendre s'expliquer et même certains élus caquistes ont hâte de l'entendre s'expliquer dès le lendemain de l'annonce de sa démission, de son départ du caucus caquiste pour mieux se présenter sous la bannière conservatrice avec Pierre Poilievre. On a entendu, entre autres, Martine Biron, la députée de Chaudière, dire « Ah, il est où ce matin? » Il est pas là, puis j'ai hâte de l'entendre s'expliquer, puisqu'il a été réélu avec une très forte majorité, et on ne l'a pas revu depuis à l'Assemblée nationale. Clairement, il sera dans une position pas vraiment confortable. Semble-t-il qu'il y a un événement là, conservateur dans sa région ce week-end. Mmh. On comprend que c'est pour ça, je présume.
Il a précipité son départ.
Précipité son annonce. Parce que pourquoi à ce moment-ci, 18 mois après l'élection générale, il aurait pu encore attendre? C'est clair que ça ne rend pas service à François Legault ce qui se passe. Bon, il y aura des explications à fournir. Jusqu'à quand il veut siéger comme indépendant. Et maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre? C'est la question que tout le monde s'est posée cette semaine.
Oui, je vais la poser à Nicolas. Est-ce qu'il va y avoir un débarquement de caquistes sur les plages de Poilievre?
Ben, moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'on a toujours attendu, on s'est toujours attendu pour dire que la fissure viendrait du côté des souverainistes ou des fédéralistes. Bon, ouais, on dira qu'un conservateur là, fédéral, c'est fédéraliste, mais la fissure à la CAQ s'en venir de l'aile droite. Donc, quasiment les adéquistes, pas ceux qu'on connaît de l'époque comme Kerr ou Bonnardel, qui sont des fidèles parce qu'ils sont devenus ministres, mais d'une certaine tranche qui est peut-être moins ouverte aux dépenses gouvernementales ou au dernier budget, par exemple, qu'on a vu avec le déficit de 11 milliards. Et donc, cette fissure semble venir de là, donc des conservateurs à la CAQ. Moi, ça me surprend, mais ça ouvre la porte. Et est-ce que ça va ouvrir la porte à un dérapage? C'est la question on peut se la poser.
La question que je me pose, c'est qu'Éric Lefebvre, il avait été terrifié pendant la pandémie parce qu'il y avait eu une manifestation devant chez lui de gens qui, au fond, par la suite, sont allés manifester à Ottawa et qui ont reçu l'appui de Poilievre. Moi, j'aimerais beaucoup lui poser cette question. Qu'est-ce qu'il pense de cette frange-là du Parti conservateur, cette tendance-là qui appuie Poilievre? Patrick?
J'allais dire que c'est surtout pas un gage de confiance non plus envers le gouvernement Legault. Quand t'es whip, t'es au Conseil des ministres, je comprends que t'es pas ministre en titre, là, mais quand même, t'as une méchante belle position. Oui. Si t'as l'impression que t'es pour te faire réélire dans 2 ans, que tout va bien, qu'il n'y a pas nécessairement une fission qui s'en vient au sein de la coalition, il me semble que tu as envie de rester, tu es dans une belle position plutôt que d'aller prendre une chance pour te faire réélire à Ottawa, surtout qu'il a déjà perdu dans sa circonscription en plus. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas un beau message qu'il envoie par rapport à son parti présentement.
C'est comme si pour certains, c'était le club école avant la Grande Ligue.
Exactement.
C'est un peu l'impression que ça donne. Parce
pour Éric Girard, c'est l'impression que ça donne. Je veux dire,
exactement.
Sa déclaration.
Pour l'instant, je suis heureux ministre des Finances au Québec, mais le vrai rêve, c'est au fédéral.
Ben oui,
d'ailleurs, Marc-André. Je pense que pour Pierre Poilievre, Éric Girard serait une pas mal plus grosse prise que M. Lefebvre. M. Lefebvre était whip en chef du gouvernement. Bon, tu sais, nous, on suit la politique de près, on sait c'est quoi un whip.
Personne ne connaissait. Dans la rue.
Personne ne sait c'est qui. Personne
même sa mère savait plus qui il était.
Ben oui, il se voyait seulement qu'une fois par année. C'est l'argument qu'il a utilisé pour justifier la hausse de salaire de 30 000 $ par année que les élus se sont donnés. D'ailleurs, ça l'a un peu marqué au fer rouge, cette déclaration, mais je ferme la parenthèse. Donc, M. Lefebvre n'était pas une si grande vedette là, de la CAQ. Le ministre des Finances, Éric Girard, lui, en est une. Évidemment, c'est le grand argentier de l'État. Et moi, je trouve que M. Girard, de la façon qu'il nous a répondu, en refusant d'exclure clairement qu'il serait peut-être lui aussi un jour candidat du Parti conservateur du Canada, ben, c'est un peu comme s'il faisait « Hey, moi aussi, je suis là », tu sais, puis qu'il se laissait désirer. Donc ça va être intéressant à suivre.
En attendant, même son entourage était mal à l'aise, hein?
Ouais, puis mais rapidement d'autres noms là qui ont circulé. Samuel Poulain, ce matin, lui, on lui a posé la question. Il a dit, moi, je veux compléter mon mandat. Oui. Donc, il prévoit pas se présenter à la prochaine élection fédérale. Après, on ne sait pas est-ce qu'il sera nouveau candidat caquiste en 2026. Peut-être, il semble pas certain. Luc Provençal, un autre Beauceron. Tu sais, les Beaucerons sont très conservateurs. Et donc, lui n'envisage pas de faire le saut avec le Parti conservateur du Canada. Mais un collègue lui a demandé, puis le Parti conservateur du Québec, lui, à la prochaine élection. Et là, on a vu Luc Provençal afficher un grand sourire. On n'a pas eu de réponse.
Il y a des sourires qui en disent long. Patrick Bellerose?
Ouais, juste dire, en fait, que je pense que Pierre Poilievre n'a quand même pas intérêt non plus à venir chercher trop de caquistes parce que tu déclenches des élections partielles dans ce temps-là. Puis là, de m'emmener, les gens peuvent se dire quand même, ben là, c'est bien beau, mais ça nous coûte cher, puis c'est pas bon pour la démocratie québécoise.
Il y a aussi énormément de, critiques envers l'électorat, envers les caquistes de la part de l'électorat conservateur canadien. On le voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que Patrick a raison. C'est un risque à prendre d'aller chercher peut-être trop de personnes à la CAQ.
Hey, je voudrais pas finir sans parler d'énergie. Et quand je pense énergie, je pense à Nicolas pour toutes sortes de raisons. Parce que non, c'est un sportif aguerri, plein d'énergie. Et il est aussi spécialiste de la sobriété énergétique. Il est même allé voir en France ce qu'on faisait là-dessus. Tu as suivi avec intérêt, passion, les crédits en matière d'énergie. Monsieur Fitzgibbon a dit qu'il avait beaucoup de carottes encore à dépenser pour aider ou convaincre les Québécois à mieux consommer. Parle-nous un peu de ces crédits.
Encore une fois, il a parlé de carottes, mais on ne sait pas dans le détail qu'est-ce que Monsieur Fitzgibbon a à proposer aux Québécois pour améliorer leur sobriété énergétique ou l'efficacité énergétique. On compte beaucoup sur Hydro-Québec, il y a certains programmes pour les thermopompes, mais encore une fois, il a dit on en a beaucoup. Il reste des carottes dans le sac avant le bâton. Le bâton, c'est quoi? Pour la première fois, on a eu une réponse. Alors, le bâton, ça serait des tarifs à la hauteur de ceux de l'Europe. Ça veut dire des tarifs quatre fois plus élevés qu'ici en ce moment là, pour le côté résidentiel. Ça ferait exploser la facture pour les citoyens. Donc, il l'a nommé.
Et ça serait une défaite garantie aux élections après pour le parti qui imposerait ça.
Et autre
fait... Amenez-moi des panneaux solaires.
Oui. Et autre fait drôle, il a admis qu'il n'était pas la bonne personne pour convaincre les gens, qu'il laissait ça aux autres, la pédagogie.
Ah bon? OK, c'est bon. Alors, merci beaucoup, vous trois. C'est toujours très intéressant de vous avoir avec moi comme ça, les jeudis. Donc, Nicolas Lachance, Marc-André Gagnon, Patrick Bellerose, vous êtes des correspondants parlementaires du Journal et du Journal à l'Assemblée nationale. Merci.
Merci.
À bientôt.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.